Radio Barque, 39e de notre saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Hélène Mandroux.
Bonjour.
Alors vous êtes notre invitée d'aujourd'hui, vous êtes ancienne maire de Montpellier,
mairesse.
Entre autres, ou mairesse. Enfin,
non, surtout pas.
Voilà.
Eh oh, oh, oh.
Déjà une mise au point.
Surtout pas.
Qui s'impose. Donc, madame le maire.
Je préfère.
Pour être clair. Entre autres, oui, vous avez un parcours politique assez bien nourri. Donc, je dis bien entre autres, et on reviendra dans une troisième partie sur ceci et surtout sur le livre que vous venez de sortir, ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire et ce qu'apparemment aujourd'hui, Hélène Mandroux, vous prenez le temps de dire. Notre sommaire, les sujets, alors le Racing, sempiternel et incontournable.
On ne peut pas ne pas en parler.
Après quoi, Michel, tu souhaites parler dans tes contre-regards sur la fin de la CCI Narbonne, enfin des CCI,
oui.
Avec de nouvelles CCI départementales. Mmh. Tu nous diras tout le mal que tu en penses apparemment.
Des regrets, disons, mais je vais m'expliquer dessus.
Dans une deuxième partie, le nom de la région. Alors voilà une belle polémique engagée à la suite d'un, non pas un référendum, puisque ça n'en a pas le titre, hein, mais une consultation.
Une votation citoyenne, un concept suisse, par exemple.
Ça fait suisse, une votation.
Oui,
voilà, j'aime bien. Et on utilisera du suisse pour donner le résultat.
Un peu de crédibilité à cette farce, oui.
Et puis un regard en deuxième partie sur l'actualité montpelliéraine, l'actualité politique, ce qui fera une bonne transition avec Hélène Mandroux et son livre. Alors, le Racing, suite.
Oui, mercredi, Jean-Claude se tenait une assemblée générale convoquée par le commissaire aux comptes, événement assez exceptionnel, hein, d'alerte 3, qui réunit l'actionnaire principal, j'allais dire presque unique, hein, puisqu'il détient plus de 90% des parts, M. Elson, et un certain nombre de petits porteurs.
Hein, voilà.
Et cette assemblée générale avait été convoquée par le commissaire Lecomte, tout simplement parce que le patron du club n'avait pas répondu.
Voilà, alerte 3, ça veut dire qu'il y avait une alerte 1 et une alerte 2.
Une alerte 2. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le code du commerce, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au terme de l'Assemblée générale qui a eu lieu mercredi, si le commissaire aux comptes avait considéré que la continuité de l'exploitation ne pouvait pas être assurée et garantie par le commissaire aux comptes, il devait donc suivre la procédure normale, à savoir mettre la société sous l'ombrelle, si je puis dire, du tribunal de commerce et enclencher une procédure, à tout le moins, hein, celle qui consisterait à régler un certain nombre de passifs. Bon, on en est là. La réunion s'est tenue, enfin l'Assemblée générale s'est tenue, au terme de laquelle, semble-t-il, le commissaire aux comptes n'a pris aucune décision quant à la continuité de l'exploitation, puisque le lendemain, il devait, pour prendre une décision formelle, regarder de près en fait, les comptes, et notamment les livres de comptes que M. Elsom s'est garant de lui donner.
Oui, sauf qu'à ce jour, lorsqu'il fait sa réunion, le commissaire aux comptes, il n'avait plus les comptes du Racing depuis le 31 mars.
Soit, mais restons dans le présent
en fait,
et dans l'avenir. Donc voilà, en toute théorie, en toute pratique en tout cas, jeudi et vendredi, puisque vendredi, je le rappelle à nos auditeurs, c'est la date butoir, date à laquelle M. Elson doit adresser un appel, un recours auprès de la commission mixte qui doit statuer sur la relégation ou pas du Racing en fédéral 1. Donc, en toute logique, jeudi soir, vendredi matin.
Oui, ça devrait être bien plié normalement.
Hein. Alors, ce que j'ai fait, le pari que j'avais fait, souviens-toi, Jean-Claude, je le rappelle aux auditeurs, était que il y aurait maintien en Pro 2. Et il y aurait maintien en Pro 2 parce que personne n'avait intérêt, effectivement, à ce que le Racing soit relégué. Quand je dis personne, c'est.
Personne
à
Narbonne.
À la fois l'association qui gère le centre de formation à Narbonne, bien entendu, le pouvoir politique local, et bien entendu, l'actionnaire principal, donc le propriétaire de la société. Et que ça, tout ça, devrait se traduire pour qu'il y ait effectivement un maintien par une union stratégique, disais-je dans mon billet, qui associe l'association de M. Cossinus, le centre de formation, et le club et le club sportif. Et il semblerait, c'est l'analyse que je fais, je peux me tromper, que à l'annonce de l'augmentation de capital de M. Elson, hein, se traduise, cette augmentation de capital, c'est mon point de vue, je peux me tromper, je le reconnais, oui, ça, par effectivement une entrée dans le capital de la société de M. Cossini, je veux dire de l'association voilà, de Racine. Ce qui scellerait effectivement, comme je l'ai toujours dit.
Hein, oui, mais jusque-là, ça n'est pas dit du tout.
Non, ça n'est pas dit.
Le seul acquis, c'est qu'ils iront ensemble à la voilà, DNACG.
Ce n'est pas dit encore, mais c'est ce que j'avais analysé il y a déjà quelques temps de cela, et qui pourrait effectivement se traduire dans les faits. Donc si on en arrive là, on aura effectivement solutionné une grande partie du problème soulevé par les instances fédérales du rugby professionnel. Voilà ce qu'on peut dire
aujourd'hui. Quand tu as une volonté durable et pérenne de travailler ensemble, ça, c'est autre chose.
Et bien, on le verra. On le verra.
Comme on dit en occitan, dans la nouvelle grande région, à quoi est-ce qu'il conmaille ?
On le verra à l'expérience, et si effectivement ce que je prédis fait se réalise, à savoir l'entrée au capital de M. Cossis et de l'association, et donc forcément une participation à la gestion du club.
Oui, voilà. Alors, la CCI de Narbonne est morte. Vive la CCI de l'Aude. Et c'est une réforme qui te semble mal ficelée, si j'ai bien compris. Enfin, tu l'avais déjà dit.
Je l'avais déjà dit, mais j'y reviens. En 2000, ou 2000, pour aller vite, quoi, hein, quand je quitte le CRTS, dans lequel j'avais été envoyé par le préfet de région de l'époque et le président de la région de l'époque pour sa restructuration, et qui d'ailleurs me rappelle au souvenir un certain nombre de coups de fil passés avec notre voisine, enfin, notre invitée, qui était à l'époque maire de Montpellier, et qui...
Que se passait-il ? Faisons simple.
J'arrive à la Chambre de commerce et d'industrie, que j'avais choisi comme lieu de travail, pour mettre en place le triangle DOC. Et d'entrée de jeu, je dis aux deux présidents de Chambre de commerce et d'industrie de Béziers et de Narbonne, on est sur une trajectoire, j'ouvre les guillemets, on est sur une trajectoire où si vous ne scellez pas ce partenariat nécessaire d'un point de vue stratégique et en termes d'aménagement du territoire pour l'angle de construction de l'époque et pour vos deux territoires, vous êtes condamné et vous serez condamné par la logique purement administrative de l'État à vous retrouver dans une chambre de commerce départementale. Donc il faut le faire dès maintenant, autrement vous allez disparaître dans un noyau départemental qui, en termes d'aménagement du territoire et de pouvoir d'intervention sur l'économie, est une aberration. Bon. J'enclenche le processus. On fait une association de coopération. On travaille sur le GP et fait pas.
Conclusion. Ça ne s'est pas fait, donc on en est là aujourd'hui.
Conclusion, on en est là aujourd'hui. On a nos deux chambres de commerce de Narbonne et de Béziers qui rouspètent, qui ne sont pas contentes du tout de cette situation. Mais j'allais dire, en fait, ils en portent l'entière responsabilité. Et la leçon que j'ai tirée de mon expérience passée, en fait, à la région en tant que directeur général adjoint, notamment en charge de l'économie, c'est que quand vous mettez, en fait, un chef d'entreprise à la tête d'une chambre de commerce et d'industrie, il quitte en fait son logiciel de chef d'entreprise, à raisonner de manière en fait optimale en fait en termes de synergie, en fait, etc. Et il se retrouve en fait avec le même logiciel que certains politiques, c'est-à-dire le seul souci, pour l'essentiel, de se faire réélire avec effectivement le corps électoral qui maîtrise le mieux. Conclusion, effectivement, nos chefs d'entreprise qui se retrouvent et qui ne sont pas forcément tous les meilleurs d'ailleurs à tête de chambre de commerce et d'industrie, les meilleurs, je veux dire, du point de vue de la performance économique dans leur boîte, quoi, hein, ben, ils se retrouvent effectivement dans des logiques purement politiciennes et ça se traduit par ce genre de situation aberrante.
Et on est aujourd'hui en plein dedans et voilà.
Exactement.
Et finalement, ben, on va se retrouver avec une CCI audoise, Narbonne-Carcassonne, les deux grands frères ennemis de toujours.
Alors même, Jean-Claude, alors même que les politiques à travers les agglos de Narbonne, de Béziers, faites de Pézenas, Agde et Lézignan, qui, elles, avaient bien compris le schéma que j'avais effectivement mis en place, se sont réunies autour d'une association qui s'appelle non pas le Triangle-Doc, mais le cœur du Languedoc, oui, et qui, effectivement, elles, hein, ont bien compris qu'effectivement, c'est là que ça allait se jouer en termes de partenariat économique, d'aménagement du territoire et de développement économique.
Voilà, une occasion ratée, une de plus, et on se retrouve après une première pause.